Bonjour à tous, Catherine dans À votre santé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec au programme Carte blanche avec Margot qui va nous parler de la disco soupe. Puis nous retrouverons Morgane pour la kinésiologie. Ensuite, Marine va nous parler des contes qui contribuent à notre bonheur. Et nous retrouverons aussi une nouvelle vision du végétarisme avec Alice. Un moment riche d'informations, de bonne humeur, de légèreté pour parler de notre santé au naturel. Bonjour à tous.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. Je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien. Cet ascenseur, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
Margot qui nous parle de la disco soupe. Bonjour Margot.
Bonjour Catherine, ça va bien ?
Oui, ça va bien. La disco soupe, c'est rigolo ça.
Alors oui, je vais vous parler donc de cet événement particulier auquel j'ai eu la chance de participer le 19 octobre dernier à Besançon. Mais alors, qu'est-ce qu'une disco soupe, vous allez me dire? Alors, le principe d'une disco soupe, qu'on peut aussi appeler disco salade ou disco smoothie, est vraiment très simple. Il s'agit de venir, muni de son économe ou non, afin d'éplucher, couper, cuisiner des fruits et des légumes moches, invendus, ayant dépassé leur date de mise en rayon, en fait, par les supermarchés ou les commerçants des différents marchés. Donc tout ça dans une ambiance vraiment conviviale, festive. Voilà, j'ai adoré vraiment. Et en fait, au bout de quelques heures de préparation, il est possible donc de déguster des bonnes recettes de soupe et smoothies. Tout ça vraiment à tout petit prix, voire même gratuitement. Par exemple, à Besançon, il suffisait juste de payer 2 € consignés pour obtenir donc son éco-cup, c'est-à-dire un verre réutilisable en plastique. Hein. Donc obtenir sa bonne soupe ou son smoothie fait avec qu'on avait préparé précédemment quoi. Donc nous avons même eu le droit de repartir gratuitement avec le trop plein de légumes qui restait, donc de quoi se refaire une bonne petite soupe à la maison.
Et ça part de quel qui est-ce qui prend l'initiative d'organiser?
Alors, donc, ce mouvement, il a donc été créé dans le but donc, de sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire au travers d'actions participatives. Et donc, Disco Soup s'est inspiré donc, des Schnippel Disco, organisés à la base par le mouvement Slow Food en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé dans une précédente chronique.
Oui, donc, lors d'une précédente émission.
Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi... Vous pouvez retrouver toutes les chroniques. Hein. Et Disco Soup donc, est un mouvement populaire qui a été lancé en mars 2012 à Paris par un groupe d'étudiants qui partait d'un constat assez alarmant qui en fait parle que tout au long de la chaîne alimentaire, c'est entre 30% et 50% des aliments comestibles qui sont jetés. En France, le gâchis alimentaire représente entre 10 et 15 millions de tonnes par an. C'est environ... Si vous voulez vous faire une idée, 7 kilos par personne par an.
Et oui.
Complètement jeté, alors qu'il était encore bon à consommer. Quoi.
Oui, donc n'importe qui peut prendre l'initiative d'organiser une disco soupe dans sa ville.
Exactement.
Il suffit de demander l'autorisation au maire, je suppose, et puis de...
Alors, un événement disco soupe, bon, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, à toutes les générations. Et il peut être organisé donc par n'importe qui, qu'il soit ou non membre de la communauté Disco Soup. Il suffit juste d'être en accord avec le mode de fonctionnement open source, c'est-à-dire sans droit de propriété, librement reproductible du mouvement. Donc c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir envie de le faire pour pouvoir le faire. Et il faut respecter bien sûr les valeurs, l'esprit de Disco Soup. Donc en fait, il suffit juste de se rendre sur le site internet Disco Soup. Et là, vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour organiser votre disco soupe.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Margot. Alors, tous à vos éplucheurs, à vos légumes.
Exactement.
Voilà.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon amour. Mon cœur, ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd. De mots doux à chaque phrase. Elle est bonne, ta quiche amour. Mon cœur, passe-moi la salade. Et ça se fait des mamours. Se donne à béquer à table. Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la gerbe. Je hais les coupes qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les coupes, je les hais tout court. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur, mon amour. Mon amour, mon cœur. ça me laisse le cul par terre. Autant de mièvrerie, nappée de crème pâtissière. Coucou, qu'est-ce que tu fais mon cœur? La même chose qu'il y a une demi-heure. Je t'ai appelé à 5 minutes mon ange, mais ça répondait pas. Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé. Pour la deuxième fois de la journée, en niquant tout mon forfait. Qu'est-ce que tu fais mon adoré? Ouais, je sais, on se voit après. Bon, je t'embrasse fort à mon bébé, hein, je t'embrasse fort. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. Bon. 1, 2, 3. C'est pas raccroché. On va le faire tous ensemble alors. 1, 2, 3. Chocolat. J'ai les coupes qui se rappellent quand je suis seule. Je déteste le couple, tout court. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur. Mon amour, mon amour. Mon cœur. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du.
Ok, maintenant, j'aimerais vous présenter une discipline qui est assez méconnue, la kinésiologie. Pour ça, aujourd'hui, je reçois Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors Morgane, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter avant de nous parler de la kinésiologie.
Oui. Alors moi je viens d'installer mon cabinet de kinésiologie sur Villefranche. J'ai été formée à la kinésiologie, un cycle d'enseignement de base et de kinésiologie spécialisée, notamment sur l'accompagnement de la relation maman-bébé. Et d'autre part, j'ai une licence de psychologie clinique. Voilà. Et je suis très heureuse d'exercer ce métier, d'en parler aujourd'hui.
Et ça fait longtemps que tu as découvert la kinésiologie. Ça s'est passé comment pour toi?
Alors, je l'ai découvert à l'occasion d'une consultation pour mon fils, et j'ai trouvé que c'était vraiment une discipline qui prenait en charge la globalité de la personne. Donc pour ça, de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Et évidemment, j'ai pu constater des résultats très rapides. Et comme je m'interrogeais sur une formation à entreprendre qui prendra en fait tous les aspects de la personne, que ça soit du domaine psycho-émotionnel comme physique ou énergétique, ça répondait vraiment à mon besoin.
À tes attentes et cette... Donc la kinésiologie, si tu veux bien nous en parler, en quoi ça consiste, d'où ça vient
Ben, c'est né aux États-Unis dans les années 60. C'est un médecin qui a mis en place certains protocoles pour aider les mères de famille à équilibrer au mieux l'énergie dans le corps de leurs enfants, de leur famille en fait. Et parce qu'ils s'étaient rendu compte que on consommait beaucoup trop de médicaments et qu'il y a des effets secondaires, donc ça l'a ça l'a conduit à élaborer cette méthode qui se fonde en fait sur la correspondance de certains muscles avec certains méridiens d'énergie. Donc c'est certaines notions de l'énergétique chinoise qui est une discipline, enfin même presque un art, dans les pays orientaux et qui date de plusieurs siècles. Donc c'est vraiment très ancien et très complexe. Donc nous on utilise certaines de ces notions et donc ça fait partie des soins holistiques de ce fait qui prennent en charge la personne dans tous ses aspects, voilà.
Dans son ensemble.
Voilà.
Donc en s'inspirant de méthodes ancestrales chinoises, il a adapté ce médecin. Donc sa technique à notre manière de vivre aussi en Occident.
Voilà, tout à fait. Il a intégré certains principes comme ça ancestraux orientaux à des connaissances neurophysiologiques plus modernes et pour l'adapter voilà à notre culture et à nos besoins. Et donc la kinésiologie, c'est une science qui est sans cesse en mouvement. Elle s'enrichit au fur et à mesure des découvertes en psychologie tout simplement, mais aussi en neurosciences. Et
le principe alors, c'est quoi le principe de comment se passe une consultation ou qu'est-ce que tu fais ou comment tu pratiques toi?
Alors, la deuxième spécificité de la kinésiologie, c'est que elle s'appuie sur un test musculaire. Donc, en fait, ça me permet de dialoguer avec le corps de la personne qui vient me voir pour répondre de la manière la plus appropriée à ses besoins. Donc, dans la manière de guider la séance, comme la manière de répondre à son besoin. C'est-à-dire que le test donc musculaire, c'est un test doux, hein, c'est pas du tout la question de la force. Ça peut s'appliquer aussi sur les tissus mous, et donc ça va me permettre de laisser aller mon intuition et puis les différents choix qui peuvent se présenter. Pour aborder le problème et de le tester, c'est-à-dire que c'est très rigoureux. Il y a un test de précision doux mais néanmoins très précis et assez constant le long de la séance pour guider au mieux.
Et on vient te voir pourquoi?
Alors, c'est assez varié. Les personnes qui viennent me voir, c'est la plupart du temps des personnes qui traversent un moment difficile, de doute, petit moment de déprime, qui ont besoin de se sentir soutenues, voilà, pour traverser un moment compliqué, qui peut être un deuil, une séparation, qui peut être aussi la gestion du stress, parce qu'on a tous une capacité de gérer un niveau de stress, et donc ça va être aussi pour préparer un entretien professionnel, pour être au maximum de ses capacités, détendu et complètement à l'aise, ou le permis de conduire, ou d'autres performances.
Et j'ai cru comprendre que la kinésiologie permet de donner des réponses qui sont au niveau du corps, sans que le mental ne puisse intervenir. Hein, c'est-à-dire que tu vas obtenir de la part du corps, en posant des questions, des réponses que le mental ne va pas pouvoir bloquer ou gérer ou interpréter. C'est là, il me semble, que que c'est intéressant parce qu'on va avoir une réponse juste au niveau du corps. Hein, le corps va dire des choses que l'esprit soit ne peut pas ou interprète ou et là on arrive à des choses vraiment très très précises et on peut travailler à partir de ça quoi.
Voilà, c'est ce qui constitue le fil directeur de la séance. Donc au départ on tombe sur des informations, on sait pas trop où ça va nous mener. Alors parfois le consultant arrive à trouver une réponse plus tard ou bien ça ne se fait pas mais ça se passe sur un autre plan, c'est-à-dire que il y a des choses qui se délient dans l'inconscient et qui vont faire leur chemin et il n'est pas forcément utile de faire intervenir le mental et d'essayer forcément de comprendre.
C'est parfois, ça, c'est voilà. Qui est intéressant, oui.
Parfois c'est ce qui va aider la personne à aller mieux, c'est de comprendre, faire un lien et prendre conscience de tout ça. C'est ce qui va l'aider à progresser. Mais parfois c'est d'autres choses.
Très bien. Est-ce que tu as des exemples peut-être, sans citer de nom, mais de cas ou de
Oui, ben alors par exemple, alors ce que je voudrais dire, c'est que donc l'histoire du mental là, c'est qu'elle intervient aussi pour moi en tant que kinésiologue, c'est-à-dire que je vais pas décider d'une méthode, je vais la tester pour voir comment réagit le corps du patient. Et puis aussi dans la prise en charge, ça va être décidé par lui, par l'intelligence du corps, on va dire. C'est-à-dire que une seule séance peut suffire, ou ça peut être un suivi court de l'ordre de quelques séances, toujours espacées de 3 semaines, 1 mois minimum. Pour permettre
pour solutionner un problème.
Voilà, tout à fait. Et donc l'histoire cette histoire là du mental est mise de côté, ça permet aux choses de se libérer aux liens visibles qui nous aux sources du problème psychosomatique, par exemple. En fait, le test va permettre de remonter à la cause, de dénouer les liens. Je compare souvent ça à une espèce de pelote. On commence à tirer un fil, on tombe sur un nœud et un autre. Et en même temps... En même temps, il y a un petit peu l'idée de couche d'oignon, c'est-à-dire que ce test permet d'accéder à tout ce qui va aider la personne, mais qu'elle est prête à gérer. C'est-à-dire que ce qui va être accessible comme information, c'est ce qu'elle est prête à gérer au moment de la séance, c'est-à-dire selon son état de fatigue émotionnelle, etc., et selon la personne, ce qui fait que la séance est toujours différente d'une personne à l'autre ou d'une séance à l'autre.
Oui, on ne s'attend pas à ce qui va se présenter forcément.
Voilà.
Hein, tout peut se présenter, c'est le corps qui va décider, même si la personne vient te voir et qu'elle veut travailler par exemple le stress, une peur ou une angoisse, peut-être que le corps va dire non, aujourd'hui je peux pas travailler ça, je veux pas travailler ça, et que quelque chose d'autre va se présenter. Ce sera peut-être quelque chose d'inattendu ou d'accord, ça se passe comme ça. Donc
quand c'est de l'ordre de l'angoisse ou du stress, ça sort forcément en priorité.
Ouais.
Là où ça va peut-être pas être la priorité, mais ça sera néanmoins possiblement traité, c'est lorsqu'il y a des objectifs très précis. J'ai par exemple eu un sportif de haut niveau qui avait besoin d'améliorer une figure en surf. Il n'y arrivait pas. Bon, ben. Alors évidemment, je lui ai proposé des exercices pour synchroniser les deux hémisphères cérébraux et synchroniser le corps avec le cerveau. Mais évidemment, il y a tout un travail sur les émotions en amont qui font que il va être à 100% de ses capacités pour sa performance sportive.
Peut-être que tu as travaillé sur la peur d'échouer ou peut-être même la peur de réussir. Hein, avec les sportifs de haut niveau, on a aussi ce souci-là de la peur de réussir, hein, qui n'est pas anodine.
Oui, tout à fait. La peur de l'échec, bon, ben, on s'en doute, mais la peur de réussir peut stresser tout autant. C'est-à-dire que
empêcher la réussite. Oui.
Voilà, un événement positif peut être facteur de stress. Par exemple, le mariage, c'est dans les premières causes de stress. Tu l'avais dit la dernière fois. Aussi, un événement négatif n'est pas forcément traumatisant, ça peut être un tremplin pour évoluer. Souvent, des personnes avec le recul de l'expérience se rendent compte qu'une maladie, un accident ou un événement difficile sur le coup a été au final un moyen d'évoluer et de s'améliorer sur plusieurs plans. Et donc, moi, je vois la kinésiologie comme une manière d'évoluer de manière un petit peu moins douloureuse, c'est-à-dire donc avec ce que la personne est capable de gérer sur le moment, en fonction de sa motivation, c'est-à-dire que quand la personne arrive, évidemment, je lui demande pour quelle raison elle vient, et ensuite on définit ensemble un cap. J'aime bien cette idée parce que avec le bateau, quand on met le cap, on place son gouvernail pour aller quelque part. Bon, bah c'est de cette manière-là qu'on va se conditionner pour arriver à un objectif positif. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de je ne veux plus m'énerver, mais on va parler de je suis détendu. C'est toujours positif. Voilà, c'est quelque chose qui est très très important dans ma pratique, c'est de rester, de toujours faire une place, même lorsqu'il y a des événements difficiles, des situations compliquées, de s'imaginer comment ça serait si on n'avait pas ces problèmes, si on était débarrassé de tel ou tel souci, incapacité ou autre. Et en laissant venir les images positives dans notre cerveau, on met le cap vers un mieux-être. Parce qu'on met vraiment tellement d'énergie et dans ce qu'on n'arrive pas à faire, dans ce qui nous énerve, etc. Et voilà, positiver, c'est pas forcément tomber dans
de l'irréalisme. Je vais bien, tout va bien.
Voilà.
Pas aussi simple que ça.
Voilà, il faut s'écouter, il faut être capable de raisonner, d'essayer de prendre du recul et tout ça, mais il faut pas oublier l'impact des émotions et sa responsabilité dans ses pensées. On est responsable de ses pensées et on peut alors on peut aussi faire appel à d'autres méthodes pour être accompagné dans ce but-là, mais essayer d'être dans
Parce que toi, la kinésiologie, tu l'utilises aussi avec d'autres techniques, d'autres méthodes. Hein, elle est au service aussi d'autres moyens que tu utilises.
Tout à fait. La kinésiologie, c'est vraiment mon outil de base. Pour toutes les raisons que j'ai énoncées avant. Mais après, elle est enrichie de toutes mes... ça serait comme une trousse à outils, c'est-à-dire que chaque kinésiologue va mener sa séance en fonction de ses connaissances et de ses formations, mais également de sa formation autre que la kinésiologie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'appuie beaucoup sur les principes de l'énergétique chinoise. Donc, en fait, le lien qui s'établit entre le corps, les émotions et l'énergie. Mais également sur les principes de l'EMDR, c'est une méthode qui permet par le mouvement des yeux de solliciter certaines zones du cerveau et de réduire le stress par rapport à un objectif donné. et ça va être aussi par exemple des pratiques psychocorporelles comme la stimulation de points réflexes pour visant à une détente. Voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi des techniques de gestion de stress, de visualisation, de relaxation, ou accompagner une prise de conscience par une discussion que je vais pouvoir guider grâce au test musculaire.
D'accord, donc c'est, en fait c'est une synergie. Tu utilises différents moyens, différentes méthodes complémentaires qui vont dans le même sens pour travailler un objectif bien précis.
Voilà, ça évolue. C'est vraiment une discipline vivante parce qu'elle s'enrichit de mes expériences, de ce que j'ai pu éprouver avec les patients lors des séances précédentes, mais aussi des formations que je vais pouvoir faire. Tout ça, je l'utilise.
Alors, on peut te trouver où, Morgane, à Villefranche?
Alors, je suis au cabinet de kinésithérapie et ostéopathie au 76 chemin du Sénéchal à Villefranche. Mm-hmm. C'est derrière le lycée Beauregard.
Voilà, voilà. Donc vous retrouverez de toute façon les coordonnées hein, de Morgane sur le site de la radio. Eh bien, j'espère que c'est un petit peu plus précis, un petit peu plus clair pour vous tous. Hein, la kinésiologie, c'est une méthode très intéressante et j'invite tout le monde à découvrir cette méthode, que ce soit... Non, ben, j'invite tout le monde à découvrir cette méthode, c'est bien.
J'invite tout le monde.
Ouais. Hein, et je vous invite tous à découvrir cette méthode. Voilà, merci Morgane.
Merci Catherine de m'avoir invitée et merci à tous.
Avec plaisir.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. J'suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard y'a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Nous retrouvons
Catherine et sa chronique « C'est quoi le bonheur ?» Aujourd'hui, le conte qui contribue à notre bonheur. Bonjour Marine.
Bonjour Catherine.
Alors le conte, c'est quelque chose que tu connais bien. J'ai cru comprendre que tu écrivais toi-même des contes.
Oui, j'ai commencé à écrire des contes très récemment, après avoir passé toute mon enfance à en écouter, à rêver grâce aux contes. Bien là, j'ai décidé d'en écrire parce que pour moi, c'est vraiment un outil formidable de connaissance de soi, de développement personnel, et vraiment un outil qui contribue à notre bonheur, puisque c'est le sujet de notre chronique, ce bonheur.
Oui, c'est une source de bonheur, le conte.
Voilà, une source de bonheur, c'est exactement ça. Donc le conte, vous avez dû certainement en écouter quand vous étiez enfant, peut-être, ou peut-être encore maintenant. C'est un récit qui met en scène dans des contextes hors du temps et imaginaires des personnages à qui il arrive toutes sortes d'épreuves et des mésaventures, donc poursuivis par des monstres, enfermés, abandonnés, trahis, rejetés. C'est souvent des situations assez cocasses, voire même cruelles dans les contes.
Oui.
Mais c'est vraiment pour parler de symboles. Le conte va mettre en scène des symboles. Des symboles qui correspondent à des archétypes. Donc des archétypes, les trois principaux en fait dans les contes, on a le roi qui va réfléchir, le héros qui va agir, et puis la fée qui va apporter secours à ce héros qui a besoin d'aller accomplir une quête. Donc tous ces personnages sont des métaphores de nos actions quotidiennes. Donc quand nous avons besoin de, par exemple, prendre une décision, eh bien là c'est le roi qui va entrer en action. Quand nous allons avoir besoin de mettre en œuvre quelque chose, donc là, à ce moment-là, on prend le rôle du héros. Et la fée, elle, représente les grandes lois de l'univers. Le côté un petit peu qui nous porte, quand nous faisons appel à la chance, par exemple, ou par exemple la loi de l'attraction également. Hein, je ne sais pas si c'est un concept connu de la plupart d'entre vous, mais c'est quand nous attirons à nous, c'est pourquoi nous vibrons par rapport à nos actions, par rapport à. La fée va représenter tous ces phénomènes-là.
C'est la magie, c'est le côté merveilleux de tout ce qu'on peut vivre au quotidien aussi.
Exactement, voilà, c'est cet aspect-là. Le symbole du conte parle donc à l'inconscient par des symboles et des archétypes donc bien développés par Carl Gustav Jung, un psychanalyste. Psychologue qui a vraiment amené cette idée d'archétype au grand public. Les archétypes vont parler un langage que notre inconscient comprend. Donc là, Jung parle à ce moment-là d'inconscient collectif. Donc en fait, chaque conte de notre enfance va raconter une histoire, un récit merveilleux qui va mettre en scène des éléments de notre vie, de nos désirs, de nos impuissances, par exemple, et en tout cas, qui vont nous faire prendre conscience de nos ressources. C'est en fait qu'on peut puiser du bonheur dans ces contes, puisque ça nous parle de nous, avec des archétypes et des symboles, mais ça nous parle de nous. On dit même que les contes peuvent nous guérir, parce que ça s'applique à des aspects concrets de ce qu'on vit tous les jours.
Oui, ça nous permet de prendre conscience également de notre potentiel, de nos capacités, et ça nous permet de croire en nous-mêmes et en notre capacité à réussir et à dépasser les événements comme les personnages des contes.
Exactement, le conte devient maintenant à ce moment-là un médiateur pour faire passer un message ou pour appréhender une situation difficile. Donc, par exemple, les enfants, ce sont eux les premières cibles du conte. Des situations comme comment trouver un ami, ou ne plus avoir peur du noir, ou résister au monstre qui est caché dans l'armoire, voilà, pour dépasser ses peurs.
Enfant comme ensuite, adulte, on va pouvoir s'identifier au héros et reprendre espoir quand on est désespéré, ou reprendre confiance si on se sent démuni.
Voilà, c'est en fait face à une situation difficile, on peut maintenant se demander qu'est-ce que le héros ferait dans cette situation ? Mm-hmm. Qu'est-ce que le héros d'un conte ferait dans cette situation ? Donc ça permet de transposer la situation dans un autre point de vue. D'un autre point de vue, et puis ensuite d'aller chercher nos ressources. On remarque aussi, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les contes qui ont marqué notre enfance ? Parce que ces contes-là vont parler de nos désirs profonds et de notre chemin d'évolution. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer et vers quelle évolution on a besoin d'aller pour être plus heureux, par exemple. Hein, pour ça, bon, faut réfléchir un petit peu et puis transposer le conte dans la réalité. Nous demander qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça nous rappelle, en quoi ça nous touche, voilà, quels sont les impacts que ces contes ont eu sur notre vie. Ça traduit vraiment c'est un outil de connaissance de soi également.
Eh bien, c'est chouette, ça. Donc, on est en plein dans la période, hein, période de Noël, période de fête. Voilà. C'est peut-être un moment, justement, c'est sûrement le moment pour renouer avec cette tradition des contes.
Voilà, les instants de partage.
Alors, à très bientôt, Marine. Merci.
À bientôt, merci.
Retrouvons maintenant Alice et sa chronique L'assiette, le monde et moi. Bonjour Alice.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi Alice ?
Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vision du végétarisme. J'ai choisi de diviser cette chronique en deux parties parce qu'il y avait beaucoup à dire. Donc la première partie, ça va être le pourquoi. Il y a de plus en plus de personnes dans mon entourage qui font le choix de vivre l'expérience, de plus manger, voire de limiter leur consommation de produits animaux, que ce soit la viande, le poisson ou encore le lait et les œufs. Quelles sont les raisons de ces choix? Comment apprendre à bien se nourrir quand on a pris la décision de changer son alimentation dans ce sens? Alors premièrement, on va évoquer plusieurs raisons. La première raison, elle est écologique. Il y a le fait que les forêts ont laissé place aux prairies et aux champs pour les cultures de fourrage, pour l'alimentation des animaux. Par exemple, le maïs. J'ai compris il y a quelques années pourquoi il y avait autant de champs de maïs alors qu'il y en avait aussi peu dans les assiettes des gens que je rencontrais. Et là, ça a été une sacrée prise de conscience. On fait pousser tout ça pour les animaux, en fait. La deuxième raison écologique, c'est l'émission de gaz à effet de serre. 15% du total des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage animal, contre 13% pour le secteur des transports tout confondu, donc voiture, avion, camion, train, tout confondu. C'est assez impressionnant comme chiffre. Ensuite, ça va consommer beaucoup d'eau et d'énergie d'élever des animaux. Il faut savoir le petit chiffre de 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de steak. On élève les animaux dans des bâtiments qui sont thermorégulés et éclairés. Donc voilà, ça c'est un coût énergétique assez important. On va polluer l'eau, notamment il y a l'exemple des algues vertes en Bretagne, avec les déjections des animaux qui contiennent les antibiotiques qu'on utilise pour les faire engraisser plus vite, qui se retrouvent ensuite donc dans l'eau des nappes phréatiques et des rivières et de la mer. Ça a également un impact très négatif car on a une surproduction de viande en fait. On produit chaque année 40 millions de tonnes de viande en Europe. Et du fait du mode de distribution, de mettre à disposition du consommateur en permanence des rayonnages bien fournis, eh bien, il y a un gaspillage énorme. Donc, on produit et on gaspille ensuite. Parce que c'est pas adapté à la vraie demande des gens. Donc voilà, ça c'est vraiment les inconvénients qui sont liés à l'élevage intensif. Après, ces inconvénients sont amoindris dans des élevages à taille plus humaine, entre guillemets, en extensif et en bio également. Je voulais aussi parler de faire une petite parenthèse dans cette chronique sur le fait que certains végétariens ou végétaliens sont très vindicatifs et qui sont beaucoup dans la réaction. Après, c'est vrai que ce système, quand on le regarde de plus près, il est aussi très violent. Dans certains peuples, certaines cultures et peut-être même en France dans des temps reculés, des hommes mangent de la viande très occasionnellement et ils ritualisent le sacrifice de l'animal en le remerciant. Et ce rapport me semble beaucoup plus juste. Je me dis que si j'avais grandi avec ça, peut-être que je mangerais toujours des animaux aujourd'hui de façon exceptionnelle. Autre petit fait intéressant, savez-vous que les boucheries n'existaient pas en France avant la Seconde Guerre mondiale? Et aujourd'hui, il y en a quasiment dans chaque village. Donc avant, on consommait beaucoup moins de viande et on consommait la viande qu'on produisait nous-mêmes. La deuxième grande raison pour devenir végétarien ou végétalien, c'est une raison économique. Les produits d'origine végétale coûtent souvent moins cher que la viande, surtout quand on choisit des produits de qualité. Le coût des produits industriels, il faut savoir que ça induit beaucoup de gens en erreur. On pense souvent que les produits qu'on trouve dans la grande distribution sont au prix juste et ce prix est très bas. Mais en réalité, les coûts d'une telle agriculture sont très élevés pour la société et j'en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine chronique. Une autre raison, c'est les performances sportives. Il y a certains sportifs, même de haut niveau, qui adoptent un régime végétarien, voire végétalien et qui améliorent leur capacité et leur endurance. La quatrième raison, c'est philosophique, éthique et spirituelle. Donc on retrouve dans cette raison le refus d'exploiter des animaux pour servir les hommes, le refus de voir les animaux comme des produits et non comme des êtres vivants qui ont des émotions et des ressentis. Des produits qu'il faut faire engraisser le plus vite possible pour qu'ils soient rentables et productifs. Il faut savoir aussi que quand on produit du lait, on demande à un animal de rester pendant une très longue période en lactation. C'est un état qui est normalement fait pour être temporaire, pour nourrir leurs petits. Et j'imagine que les femmes qui ont déjà allaité savent que c'est un état qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, donc qui est relativement fatigant aussi. Ces personnes qui deviennent végétariennes ou végétaliennes pour des raisons donc philosophiques et éthiques, condamne la souffrance animale infligée, notamment dans les élevages intensifs. Il y a une petite citation de Paul McCartney que j'aime beaucoup, qui dit « Si les abattoirs avaient des fenêtres, nous serions tous végétariens.
» Oui.
D'une manière plus globale aussi, dans ces raisons éthiques, il faut savoir que les céréales et légumineuses, notamment le soja qu'on utilise pour engraisser les animaux, et qui les rend malades, notamment les vaches qui ont leur foie qui est très abîmée par le soja, parce que normalement elles sont faites pour brouter de l'herbe et d'autres plantes sauvages. Eh bien, ce fourrage est produit dans des pays pauvres, notamment en Amérique du Sud, où les populations là-bas parfois meurent de faim, alors qu'ils pourraient utiliser les terres pour se nourrir eux-mêmes si on n'était pas dans une logique de capitalisme et de profit. Il y en a qui vont même beaucoup plus loin que juste refuser de manger de la viande et des produits animaux. Il y a des personnes qui sont véganes. Donc, faut pas confondre végétalien et vegan. Vegan, c'est des gens qui sont végétaliens, donc ça, c'est le mode alimentaire, mais ils refusent aussi l'exploitation des animaux pour d'autres choses, que ce soit pour tester les cosmétiques, pour les tester des médicaments.
Pour s'habiller aussi.
Voilà, ils choisissent de pas porter de cuir, la laine aussi.
La laine, tous les produits animaux.
Ouais. Voilà, ils refusent aussi de manger du miel. L'avant-dernière raison pour devenir végétarien ou végétalien, c'est la santé. On sait maintenant aujourd'hui que la surconsommation de viande encrasse tout l'organisme en participant à l'acidification du corps. Bon, après, il n'y a pas que le fait de manger de la viande qui va acidifier, il y a d'autres facteurs comme le stress, le manque d'activité physique, le manque de fibres dans l'alimentation parce qu'on mange parfois pas assez de légumes ou de fruits frais et qu'on consomme aussi beaucoup de céréales et de produits laitiers. Donc voilà, tout ça, ça participe à l'acidification. Le fait de manger aussi beaucoup de viande, c'est-à-dire trop de viande, ça favorise le développement de bactéries de putréfaction dans les intestins. Et parfois, on s'en aperçoit quand on a des odeurs pas très agréables, quand on a des gaz. Les conséquences de tout ça, d'une surconsommation de produits animaux, ça va être le diabète, les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins qu'on connaît de plus en plus dans nos civilisations. Et pour moi, la dernière raison, c'est le fait qu'il y a du lobbying derrière tout ça. Voilà, il y a un décalage entre la publicité, c'est-à-dire les messages qu'on nous fait passer autour de la viande et des produits animaux, et puis la réalité. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une partie des messages qu'on nous envoie qui sont en fait de la manipulation. Et il y a toute une image aussi derrière le fait de manger de la viande. Une croyance qui circule, comme quoi, quand on mange de la viande, ça nous rend fort. Pour les hommes, ça les rend virils. C'est un symbole de réussite sociale aussi. Donc voilà, je peux témoigner que certains hommes ne mangent pas de viande et restent très virils.
Ah bon?
Oui. Et qu'on peut réussir, entre guillemets, socialement, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et ne pas manger de viande, c'est... Voilà.
Tout
peut-être
à
qu'il y a
fait.
Des croyances
tout
à dépasser. À et je mettrai, dernière information, je mettrai en ligne... sur mon site internet des ressources très intéressantes sur le sujet, notamment le discours de Luis, un petit, alors je ne sais pas s'il est portugais ou brésilien, que sa maman a filmé pendant qu'elle lui présentait une assiette de poulpe, et il se rend compte d'un seul coup que c'est un animal qui va manger et il refuse. Elle est super cette vidéo, elle dure deux minutes.
Oui.
Et voilà d'autres ressources que je mettrai en ligne.
Très bien, merci Alice. Eh bien, nous te retrouverons le mois prochain pour la suite de cette chronique.
Voilà.
La deuxième partie.
Ce sera vivre un végétarisme heureux.
Très bien. Merci beaucoup.
Avec
au revoir.
Plaisir, au revoir. Tonight.
There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely.
Dans Trucs et Astuces, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la chicorée. La chicorée, c'est un délicieux, c'est une plante délicieuse nature ou avec du lait végétal. Donc pour remplacer le café, on l'a souvent utilisé pour des cures printanières. C'est une plante qui va nettoyer l'organisme. Depuis le 18e siècle, on a utilisé la racine que l'on a grillée et moulue pour en faire un substitut de café, pour contrer en fait le côté excitant du café. Il faut savoir que la chicorée est riche en fibres et en minéraux et qu'elle favorise le transit et contribue à l'équilibre de la flore intestinale. C'est pour cette raison notamment que les gens du Nord la mêlent au café matinal. La chicorée consommée en boisson contient non seulement du phosphore, mais aussi du magnésium, du potassium et beaucoup de fer. C'est pourquoi elle est recommandée pour combler la carence en ce minéral durant la grossesse. Considérée comme une plante tonique et fortifiante, elle permet aussi d'améliorer la santé générale de l'organisme. Grâce à sa concentration en principe amer, elle favorise la digestion et stimule l'appétit. Grâce à sa concentration en principe amer, elle favorise la digestion et stimule l'appétit. Une équipe de chercheurs belges a notamment récemment constaté que l'inuline extraite de la racine de la chicorée possédait des effets prébiotiques. Et c'est très très intéressant, car en clair, cela signifie que la chicorée, consommée à raison de 8 grammes par jour, fournit un milieu favorable au développement de bactéries bénéfiques pour le système digestif humain. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore les bienfaits de la chicorée, n'hésitez pas à y goûter. C'est délicieux et ça peut remplacer effectivement le café. Et il faut savoir aussi que la chicorée abaisse le taux de cholestérol et protège le foie. Sur ce, c'est le moment de nous quitter. C'était À votre santé, notre émission mensuelle entièrement consacrée à la santé et au bien-être au naturel, chaque troisième samedi du mois. Restez à l'écoute de CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. Bye bye!
Et